Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle aurait pu être sociologue, mais sa fibre artistique a révélé un autre chemin à Agnès Jaoui, comédienne, chanteuse, auteure et réalisatrice, qui est la femme la plus récompensée au César. Alors, elle a mis de la sociologie dans son art. Et son art est grand. Les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre, Agnès Jaoui nous convie dans la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides à Paris pour assister aux représentations magistrales de Tosca de Puccini, dont elle a signé la mise en scène dans le cadre du Festival des Opéras en plein air. Frissons et éblouissements garantis. Et en plus, on va passer une heure ensemble.
Europe 1.
Bonjour, chère Agnès.
Bonjour, Isabelle.
Alors, Agnès Jaoui, on vous avait déjà approché pour mettre en scène des opéras. J'ai appris ça. Et vous aviez refusé. Pourquoi cette fois-ci, vous avez pris à bras-le-corps Tosca de Puccini ?
Je pense que jusqu'à il y a peu, l'idée de mettre en scène sans jouer moi-même, sans être sur la scène à l'arrivée, me frustrait trop. Et c'est moins le cas. Et puis aussi, peut-être que je me sentais pas prête ou pas... Enfin bon, bref. En tout cas, la proposition de Gilbert Dévaux est arrivée à point nommé. Et cette fois, j'ai dit oui. Et puis c'est vrai que...
Mais Gilbert Dévaux vous a dit « Je vous veux pour une mise en scène d'opéra » ou il vous a dit « Tosca est pour vous » ?
Il m'a dit « Est-ce que vous accepteriez de mettre en scène Tosca ?» Donc, le fait aussi que Tosca ait été choisie et imposée d'une certaine façon, enfin en tout cas proposée, m'a plu. Ça m'a évité d'avoir à choisir parce que j'aurais eu bien du mal. Et voilà, il se trouve que c'est une œuvre particulièrement théâtrale et très belle, évidemment.
Alors, Tosca, c'est un classique qui, depuis sa création en 1900, a donné lieu à énormément de représentations. Oui. Et puis, Tosca est marqué à jamais par l'interprétation de la Callas. Vous n'avez ressenti aucune appréhension, aucune inhibition face à l'exercice, alors que tant de metteurs en scène d'opéra en ont déjà donné leur vision depuis plus d'un siècle.
Ah, oui, je sais, mais bizarrement, non, ça ne m'a pas inhibée. Au contraire, justement, tout avait déjà tellement été fait que... Enfin, j'y ai pas pensé, en vérité. J'ai pensé qu'à essayer de transmettre l'émotion que je ressentais, de me servir aussi... du film, parce que j'ai filmé les chanteurs.
Ah oui.
Et j'ai filmé l'orchestre et les instruments. Et voilà, c'était au-delà de mes attentes, tellement j'ai aimé faire ce travail, aimé l'équipe aussi des chanteurs. J'ai profondément aimé cette aventure et le plaisir de cette mise en scène.
Alors Agnès Jaoui, au départ, Tosca, c'est une pièce de théâtre de Victoria Sardou, jouée par Sarah Bernhardt.
Oui.
Puccini voit la pièce, il est conquis par le potentiel de l'intrigue, il demande les droits d'adaptation. Tosca est donc créée à Rome en 1900. Et dans un premier temps, la violence de l'histoire déstabilise tous les critiques, alors que le public, lui, fait un succès de cet opéra. Faut nous raconter le propos maintenant. Comment on résume Tosca ?
C'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Tosca est une chanteuse lyrique, vénérée dans sa ville. Rome, à ce moment-là, est aux mains d'un pouvoir incarné par Scarpia, qui est un des plus méchants de tous les méchants. Et il y a un vent républicain, parce qu'il y a eu la Révolution en France, etc. Et puis parce qu'ils en ont marre de cette tyrannie, bizarrement portée par Napoléon, qui à ce moment-là est un tout jeune, quoi. Et donc, il se trouve que Tosca elle-même n'est pas du tout politisée, absolument pas, mais son amoureux, Mario Cavaradossi, qui est le ténor et le chanteur, enfin bon bref, et qui lui, dans la pièce, est peintre, lui est politisé, et il se trouve que dans l'église où il peint une Marie-Madeleine, arrive, se réfugie, l'ancien consul de la République très éphémère de Rome, et qui donc est lui plutôt pro-révolutionnaire, etc., enfin en tout cas républicain, et il se cache parce qu'il a été mis en prison par Scarpia et ses sbires, et du coup Mario Cavaradossi va le cacher, et Tosca va protéger son amant, mais sans savoir au départ ce qui se passe. Et puis finalement, il y a ce célèbre acte 2 où Scarpia lui dit, parce qu'il met en prison Cavaradossi, et il lui dit « Si tu veux libérer ton amant, tu dois coucher avec moi. »
Alors, ce qu'il y a de magistral et singulier avec le concept des opéras en plein air, c'est qu'ils sont créés dans des sites historiques exceptionnels.
Oui.
Donc, après le château de Vincennes, la cité de Carcassonne et le domaine de Saint-Germain-en-Laye, bien votre mise en scène de Tosca, Agnès Jaoui, va s'épanouir aux Invalides dans la cour d'honneur, je le rappelle, bien sûr, les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre. Est-ce qu'une mise en scène en plein air se pense forcément différemment d'une mise en scène à l'intérieur des murs d'un opéra. Je vous pose la question, vous n'avez jamais fait de mise en scène d'opéra précédemment, mais il y avait en fait des paramètres forcément très différents.
Oui, oui, vous avez raison. J'ai fait des mises en scène de théâtre, donc de toute façon, je me rends compte de la différence qui existe. On est dans un site, des sites somptueux, très vastes souvent, où l'œil est attiré par d'autres choses. Et une de mes préoccupations, ça a été avec Philippe Miech, le décorateur, de trouver un décor, de construire, de concevoir un décor qui s'intègre dans ces lieux-là, d'ailleurs de couleur un peu de la pierre, souvent blanche, pierre de taille, etc., qui caractérise la plupart des monuments dans lesquels on a joué. Et puis de faire que on a l'impression que ce soit intégré dans cette espèce de décor et de cette démesure. Je trouve qu'il y a quelque chose de, vraiment de démesuré dans l'opéra et qui se retrouve dans les bâtiments dans lesquels on va jouer.
Alors, vous, l'artiste, je le répète, la plus récompensée au César, Agnès Jaoui, pour cette mise en scène d'opéra, ce ne sont pas des acteurs que vous dirigez, même si, en chantant, ils savent parfaitement incarner et jouer. Mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui s'imposent. Il y a bien sûr la direction musicale de l'œuvre, il y a le rythme de Puccini, il y a le placement des artistes lyriques dont les voix doivent justement s'élever vers le ciel. Est-ce que vous êtes senti libre malgré tout ça ?
Alors, la liberté est faite de contraintes, ou en tout cas, les contraintes, très souvent, sont source de créativité, ça, alors là, j'en ai fait mille fois l'expérience. Donc, évidemment qu'il y avait beaucoup de contraintes. Il se trouve que, par ailleurs, je fais du chant classique depuis... mais voilà, donc...
Et on va en parler dans peu de temps.
Donc, bon, déjà, la pratique du chant ne m'est pas inconnue, donc je pense savoir à peu près ce que je peux leur demander, pas leur demander... Et puis, alors ça a été une autre de mes grandes réjouissances, c'est que au théâtre, justement, notamment quand j'assiste aux représentations des pièces que j'ai mises en scène, des fois j'aimerais justement être chef d'orchestre et dire « maintenant, non, tant, allez !» Enfin, je me sens comme ça bouillir d'impatience ou de tension parce que les acteurs, évidemment, n'ont pas toujours ma respiration, mon rythme. Là, c'est Puccini et Yanis Pospourikas qui la donne, la pulsation. Ouais. Et donc, en fait, j'étais beaucoup plus tranquille, bizarrement, parce que le rythme était donné. C'était ça, et c'est capital, évidemment, le rythme, pour toute histoire qu'on raconte, qu'elle soit au cinéma, au théâtre ou n'importe où. Donc voilà. Par contre, évidemment, il a fallu faire un travail qui tient compte de la musique, des pauses, déjà, des fois, bizarres pour moi, enfin, voilà, dramaturgiquement, mais il se passe ceci
parce qu'il
cela.
Il y a des parties non chantées.
Bien sûr. Bien sûr.
Et c'est peut-être c'est ce qui est le plus complexe à mettre en scène.
Au départ, c'est ce qui me perdait un petit peu. Et puis, c'est presque ce qui m'a le plus plu, c'est de trouver justement la cohérence psychologique à ces pauses qui sont imposées, et puis artistique, et de m'amuser avec ça, et avec le chanteur, qui lui aussi va peu à peu intégrer et faire corps avec le rythme qu'a écrit Puccini il y a plus d'un siècle.
Europe.
Mais quel plaisir de se promener cet après-midi pendant une heure en compagnie d'Agnès Jaoui. On fait une pause très très courte, promis, on se retrouve tout de suite.
Europe.
Il est 15h13 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve Isabelle Morizet et son invitée. Aujourd'hui, la comédienne, scénariste et réalisatrice passionnée de musique, Agnès Jaoui. De la mise en scène de théâtre à la mise en scène d'opéra, et bien elle se raconte jusqu'à 16h sur Europe 1.
Tosca n'avait pas de secret pour elle. Agnès Jaoui a donc accepté, certainement dans l'euphorie, de mettre en scène ce sublime opéra de Puccini, Tosca, qui sera joué les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre prochains dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides à Paris. Et cet après-midi, eh bien, on devise ensemble. Alors Agnès Jaoui, pendant de nombreuses années, vous avez savouré en parallèle, sur scène, vos deux passions, la comédie et la musique, sans que jamais les médias évoquent votre carrière de chanteuse. Alors que vous produisiez avec l'ensemble vocal Canto Alegre et le groupe Latino Quintet Official. Pourquoi cette autre vie d'Agnès Jaoui est-elle restée dans l'ombre quand même assez longtemps, pendant qu'au cinéma, vous étiez starisée ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été une passion volontairement privée pendant très longtemps.
Enfin, volontairement privée ?
Enfin, volontairement. Volontairement et... Des fois, on croit qu'on décide, mais en fait, on est aussi très influencé par, évidemment, une époque, des modes. Et c'est vrai qu'une actrice qui chante, c'était pas forcément très bien vu. Puis qu'on n'a surtout pas pas... Voilà, je pense que j'aurais été en Angleterre, aux États-Unis, j'aurais participé à des comédies musicales, ça aurait été plus naturellement aussi ma profession.
En France, il n'y a pas cette connexion.
En France, il y a très peu cette connexion, voire voilà, pas du tout. Et puis du coup, comme quand même en chant classique, je me considère amatrice, enfin je suis une amatrice.
Mais qui a fait le conservatoire, qui a étudié l'art lyrique.
Oui. Et puis qui continue à chanter avec Canto Allègre, dans des, voilà, dans des fois dans des théâtres, des fois des Champs-Élysées, des
mais
fois,
oui.
Enfin bon bref, et puis les plus souvent dans des églises. Mais bon voilà, je... Et puis aussi, je pense que cette liberté de faire ça, voilà, sans aucune contrainte et de promotion et de je sais pas quoi, de rentabilité.
Ça, c'était jubilatoire.
Oui, ça m'apportait beaucoup de plaisir.
Ouais. Mais il faut dire que vous avez quand même sacrément le goût du secret, parce que effectivement, vous ne parliez pas du tout de vos tours de chant en interview, et vous avez utilisé longtemps un pseudo dans l'ensemble vocal Canto Allègre.
Oui, oui. Hein,
au point d'ailleurs qu'il paraît, vous allez me dire si c'est vrai, mais je crois savoir qu'un beau jour, à la fin d'un concert, une femme est venue vous voir en vous déclarant « c'est quand même fou ce que vous ressemblez à Agnès Jaoui ».
Alors précisément, elle m'a dit « je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais vous ressemblez beaucoup à Agnès Jaoui ».
Ah bah c'est charmant.
Voilà, c'est la phrase exacte, et c'est pour ça que je m'en souviens.
Bon, pourquoi dites-vous, Agnès Jaoui, que lorsqu'on chante, il y a une forme d'impudeur qui instaure un rapport différent avec le public par rapport au théâtre?
Parce qu'on ne peut pas tricher. Voilà. On peut tricher au cinéma et au théâtre. On peut fabriquer, on peut... et des fois, c'est formidable d'ailleurs. Hein, des fois, c'est énervant parce qu'on voit la duperie. Mais des fois, ça crée quelque chose de fou. Mais avec la voix, si on triche, au bout d'un moment, la voix se casse. Quoi. Les cordes vocales disent stop.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est extrêmement intime.
Alors, j'ai dit à l'instant que vous aviez fait le conservatoire, vous avez étudié le chant lyrique, mais en fait, elle est entrée comment la musique dans votre vie, Agnès Jaoui? Est-ce que votre famille était mélomane?
Mon père est un grand, grand mélomane. Et il écoutait tant de musique, et très diverse, justement, de la musique classique, de l'opéra, au fado, à la musique brésilienne, à la musique arabe, israélienne, enfin bon bref, que j'ai été baignée dans ça. Tout le monde chante à la maison et tout le monde a toujours chanté. Et puis voilà, puis un jour je beuglais sur la calasse dans ma salle de bain et une amie de mon père a dit « mais elle a une voix » et bon, voilà, moi j'ai fait « j'ai roucoulé l'hôtel et je suis allée dans un conservatoire de quartier, puis après j'ai continué.
Oui, mais alors pourquoi avoir finalement, à la sortie de l'adolescence, choisi le théâtre dans un premier temps?
Parce que au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes blocages, les mêmes difficultés, et puis surtout que l'art lyrique, c'est quand même une sorte d'ascétisme. Enfin, vous rentrez dans quelque chose qui... où vous allez peu boire, peu fumer, peu faire la fête, et puis être tout le temps dans une discipline qui est extraordinairement exigeante. Et j'ai une admiration sans borne pour les chanteurs lyriques. Or, le théâtre et le cinéma offraient beaucoup plus de, enfin voilà, de diversité et de voilà, et me semblait moins exigeant. Je ne sais pas si j'aurais été capable de cette exigence-là.
Musique, théâtre. Bon, un jour, tout s'est reconnecté, vous êtes monté sur scène pour chanter, et vos tours de chant ont révélé, j'ai envie de dire, une sorte de géographie intime. Parce que, Agnès Jaoui, vous chantez en espagnol, en portugais, en arabe et en hébreu. Vous chantez le fado, la bossa, le boléro, les rythmes cubains. Tout ça, en fait, ça vous raconte, comme par exemple, vous raconte sans doute votre mise en scène de Tosca. Mais ça vous raconte, là, quand vous chantez, c'est Agnès.
C'est une Agnès. On est tous multiples. Vous avez raison, ça me raconte, parce que en tout cas, vous avez cité des langues avec lesquelles j'ai un rapport intime. Enfin, intime. C'est des langues que je connais, plus ou moins, dont je connais les pays. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on est tous plusieurs personnes. Et je ne sais pas laquelle est la plus proche de moi, et je m'en fous même, je dirais.
Et ce qui est formidable maintenant, c'est qu'on peut tous avoir plusieurs vies. On fait une pause très courte et on retrouve mon invité cet après-midi, Agnès Jaoui.
Europe 1. Jusqu'à 16h, Isabelle Morizet s'entretient avec la femme la plus récompensée au César, avec 6 statuettes à son actif. C'est Agnès Jaoui, venue nous parler sur Europe 1 de sa première mise en scène d'opéra. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre prochains, la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides à Paris va résonner, vibrer, retentir des airs fabuleux de Tosca, de Puccini, mis en scène par Agnès Jaoui dans le cadre du Festival des opéras en plein air, avec vraiment une distribution de haut vol qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais d'abord, chère Agnès, parce que je suis curieuse. Agnès Jaoui, une famille, et Dieu sait si ça a souvent été au cœur de vos attentions dans tous les scénarios que vous avez écrits, une famille, c'est à la fois merveilleux et redoutable. Elle était comment, la vôtre ?
Elle était beaucoup plus merveilleuse que redoutable. Non, mais c'est vrai, j'ai eu de la chance, parce qu'elle était particulière, parce que mon père est un anticonformiste et provocateur né, donc... quand on est enfant, des fois, c'est bizarre. Quand on est ado, c'est très compliqué. Puis après, on voit les avantages aussi.
Oui, on peut s'en inspirer.
Voilà, exactement. Et puis, une mère psychothérapeute. Et...
on est plus forcément dans l'introspection ado quand on a une maman psychothérapeute, psychanalyste.
C'est aussi que la parole était extrêmement libre chez mes deux parents, en famille. Enfin, c'est ce que mes amis me disaient. C'est ce que on parlait de tout sans tabou, parfois sans assez de tabou. Ça, c'est encore... voilà, c'est une opinion. Et puis, c'est des époques aussi. Hein. Ils étaient plutôt 68ards, plutôt... C'était les années donc 70, etc., avec la libération sexuelle, la libération... Enfin, voilà, tout était possible. Mais il y avait aussi, justement, dans tout c'est possible, un optimisme. Mes parents m'ont transmis ça. L'idée que, justement, tout est possible, que si je veux, je peux. Et
mais voilà. C'est un cadeau fabuleux pour un enfant.
Ça, c'est... Je me rends compte tout le temps. Parce que je vois à quel point des amis, même proches, n'ont pas reçu ce cadeau et se mettent des barrières eux-mêmes. Et puis même, n'osent pas être heureux, parce que c'est comme si c'était mal vu à Paris.
Culpabilisant, quoi.
Oui, oui, oui. Culpabilisant, parce qu'il y a d'autres gens malheureux. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on fait. Je me souviens, quand j'ai participé au Festival de Cannes au jury, il y avait Will Smith. Et je lui demandais comment ça allait. Il me disait... I'm so good! Et en ouvrant les bras, je suis tellement heureux, on est bien. Il avait raison, on était dans des conditions merveilleuses, on était heureux. Mais vous connaissez un Français qui vous dirait ça?
Non, je n'en connais pas.
Voilà. Donc, ça, c'est le fait d'avoir le droit au bonheur, c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Je ne dis pas que je l'ai toujours pris, mais ils me l'ont transmis.
Alors, Agnès Jaoui, vous dites, à partir du moment où j'ai eu une conscience, j'ai écrit. Elle est venue par quoi, cette conscience ?
Je ne sais pas, mais je peux quand même parler d'un événement. Enfin, un événement pour moi. C'est que je suis allée visiter la maison d'Anne Frank, qui est devenue un musée à Amsterdam. Et que j'ai été très fortement impressionnée. J'avais, je crois, 11 ans. C'est là que j'ai commencé à écrire. Et... Je pense que je me suis totalement identifiée à cette petite fille, et puis après adolescente, puisqu'elle a passé de 12 à 16 ans cachée dans cette maison pendant la guerre, avant malheureusement d'être prise et d'aller mourir dans les camps. Et le fait qu'elle existe à ce point-là, juste parce qu'elle avait un stylo et un carnet, alors que sa vie a été si brève, pour des raisons aussi atroces qu'absurdes, je pense... m'a donné envie d'écrire, parce que par contre cette conscience de la mort et de notre peu de temps sur Terre, je l'ai eu très tôt.
Vous l'avez eu très tôt. Oui. Mais alors qu'écriviez-vous à 13, 14, 15 ans ?
Alors j'écrivais des histoires de Agnès avec les garçons, Agnès avec sa copine, Agnès avec moi. Je veux dire, c'était évidemment moi.
Mais brouillon adolescent au potentiel fort.
J'en sais
voilà.
Rien. Sérieux.
Vous avez fait Hippocagne à Henri IV. C'est pas le chemin le plus emprunté pour passer le concours du conservatoire. Est-ce qu'il est vrai que vous l'avez raté, le conservatoire
d'art dramatique ? J'ai raté le conservatoire d'art dramatique deux fois.
Mais pour quelle raison ?
Je l'aurais pas plu.
Ah, c'est terrifiant. Vous ne l'aurez pas plu.
Bah oui, il faut croire. Et puis Hippocagne, j'ai été prise puisque j'ai fait ma scolarité Henri IV et je suis allée à quelques cours, mais je n'ai pas fait Hippocagne. Je laisse ce mensonge-là parce qu'il y en a d'autres, d'autres sur mon compte qui sont faux et qui m'énervent. Donc celui-là, je le laisse, je le trouve sympathique. Mais voilà, oui, j'ai été prise, j'ai fait quelques cours à Hippocagne, j'ai adoré d'ailleurs, mais j'étais là aussi incapable de fournir un tel travail.
En tout cas, refusé deux fois, dites-vous, au Conservatoire d'art dramatique, mais votre talent, il n'a pas échappé à Patrice Chéreau, qui vous a prise, lui, dans son cours au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et vous a fait tourner votre premier film, Hôtel de France. Vous saviez, en fait, à 16, 17, 18 ans, à la fin de la terminale à Henri IV, vous saviez que un jour, vous finiriez sur des plateaux de cinéma, vous entreriez dans la lumière, vous, confusément, vous aviez cette envie non avouée, inavouable. Ça a été une surprise.
Elle était extrêmement avouée.
C'était assumé.
J'ai voulu être comédienne dès mes 12, 13 ans. Enfin, dès que je me suis dit comment je peux m'exprimer, comment je peux exister.
Mais alors, il y avait le chant. Il y avait l'écriture.
Ah, c'est pour ça,
le théâtre, la comédie.
Si j'avais pu épouser un prince, j'aurais peut-être fait quoi que. Mais enfin, je veux dire, tout était. S'il y avait eu la télé-réalité ou s'il y avait eu les réseaux sociaux, je pense que j'aurais été toute la journée, j'aurais montré ma chambre, mon chat. J'avais une inquiétude de ne pas être ne pas être sûre d'exister, qui était phénoménale. Donc voilà, je m'exprimais de toutes les façons possibles. Mais par contre, je n'étais pas du tout sûre que j'arriverais à en faire mon métier. J'étais absolument pas sûre. Je connais peu de gens à cet âge-là qui le sont, de réussir quoi que ce soit un jour.
Mais votre talent n'a pas échappé à Patrice Chéreau. Et il vous a mis sur la rampe de lancement. Non, pas tout à fait.
Non, ça s'est pas exactement passé comme ça. Non. En plus.
Alors ça s'est passé comment, Agnès Jaoui?
D'abord, je pense que c'est Pierre Roman, mais qui est mort et puis qui vivait beaucoup dans l'ombre de Patrice Chéreau, qui m'a choisi.
Oui.
Parce que dans la première session, parce qu'il y a eu deux sessions d'acteurs à l'école des comédiens de Nanterre, et dans la première session, le reproche avait été fait qu'il y avait beaucoup de garçons et que les filles n'étaient pas toujours... bref.
Oh,
Pierre Roman a fait beaucoup
quota,
la sélection.
C'est ça.
Il fallait surtout un regard peut-être moins exclusivement attiré par les garçons. Enfin, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, je pense pas que Chéreau m'ait choisi et je pense que Chéreau m'a pas aimé en plus. Et ce qui fait que je ne l'ai pas aimé non plus. Et voilà, donc je dois beaucoup plus à Pierre Roman, mais dont le nom n'est pas célèbre, qu'à Patrice Chéreau.
Mais c'est très bien de le citer parce que dans cette émission, on parle vrai. C'est formidable. On fait une pause. On retrouve tout de suite Agnès Jaoui.
Agnès Jaoui, l'invitée d'Isabelle Morizet, qu'on retrouve tout de suite pour la suite de leur tête à tête. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1.
Alors, chère Agnès, les Américains ont Woody Allen, en Espagne ils ont Almodovar, et bien nous les Français, on a un binôme étonnant, deux âmes sœurs, qui depuis le début des années 90 transcrivent au théâtre et au cinéma leur époque, un peu comme Claude Soutel a fait dans les années 70 et 80. Sauf que ce binôme a été un couple qui s'est rencontré en 87, séparé en 2012 et qui continue d'écrire ensemble de façon fusionnelle. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Bacri et vous. Alors ma question, elle est très simple. Il faut beaucoup d'amour et d'estime réciproque pour se séparer sans jamais se quitter.
Alors écoutez, votre question est si bien posée que je dirais oui, exactement. Je n'ai rien à rajouter.
Bon, cuisine et dépendance. Un air de famille, smoking no smoking, on connaît la chanson, le goût des autres, parlez-moi de la pluie, au bout du compte, place publique. Tout ça, vous l'avez écrit ensemble avec Jean-Pierre Bacri. Mais l'envie d'imaginer à deux, elle est née comment?
Elle est née parce que on était tous les deux insatisfaits de nos carrières d'acteurs. Alors, moi, parce qu'elle était inexistante, donc voilà. Et Jean-Pierre, parce que il était un moment où... je sais pas, on lui proposait pas des rôles forcément passionnants. Et puis, il avait déjà écrit de son côté deux pièces, assez super d'ailleurs. Le grain de sable, et tout simplement. Et puis, il s'était arrêté en se disant, bon, je fais du sous-pinter. Enfin, bon, bref. Et puis, moi, j'écrivais mon petit journal depuis toujours. Donc, et puis, à un moment, Enfin, j'en pouvais plus d'attendre que mon téléphone sonne, comme beaucoup d'acteurs. Et donc, tous les deux, on a eu envie d'écrire. L'autre chose, c'est qu'on était très réunis, on l'est toujours, par un point de vue sur le monde et des agacements par rapport à... on nous disait ce qu'il fallait penser ou ce qu'il fallait aimer ou enfin je sais pas, il y avait beaucoup de sujets sur lesquels on avait envie de s'exprimer et du coup on l'a fait, voilà, on a commencé à écrire Cuisine et dépendance et voilà.
Et voilà, les portes se sont ouvertes en grand sur le succès. Bon, Agnès Jaoui, en 2001, Le goût des autres a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Vous y êtes allée ?
Oui.
À la cérémonie des Oscars ?
Oui.
Bon, alors, est-ce qu'on est contemplatif dans ce genre de cérémonie malgré le stress ? Ça se passe comment ? Quand on est la petite Française qui peut-être va monter devant, sur scène devant tout le gratin hollywoodien ?
Alors, je savais que je n'y monterais pas parce qu'il y avait
pourquoi
à ce moment-là
ça
parce qu'il y avait Tigre et Dragon d'Ang Lee et que c'était qui était dans la catégorie film étranger mais qui était totalement financé par les Américains et qui était un énorme succès et voilà. C'était instructif. J'avais très froid parce que la clim était à donf et je ne sais pas comment
clim américaine
font ces êtres humains pour être dans des petites robes. Donc moi, j'avais une espèce d'énorme manteau de fourrure que j'ai pas quitté. Et puis aussi, il est interdit de fumer pendant les pauses. C'est très très long parce qu'il y a des pauses publicitaires pendant la cérémonie et vous ne pouvez pas sortir fumer. C'est hyper fascinant, bien sûr, et fliqué et normatif
et chronométré.
Mais chronométré, enfin c'est... Et puis ils remercient tous Dieu et leur famille. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'était fascinant et hyper déprimant.
Hyper déprimant, mais vous avez quand même pu bavarder avec certains acteurs, réalisateurs, producteurs.
Non.
Pas du tout.
Non, ils n'avaient rien à foutre. J'étais quelqu'un de je sais pas, de l'Ouzbékistan. Enfin, c'est méprisant pour l'Ouzbékistan. Ils s'en foutaient. Si, il y avait deux choses qui les intéressaient, certains, les producteurs, c'était que je fasse des films là-bas.
Oui.
Ou que je vende mon scénario pour en faire un remake.
Vous avez refusé.
Au-delà de ça. Mais j'étais. Ils s'en foutent
complètement.
Mais
vous l'avez vendu, votre scénario à Hollywood ou pas?
On a toujours refusé. Non,
ça, je peux savoir pour quelle raison.
Mais parce que on n'est pas des pygmées. Enfin, je veux dire, et encore pas. Je rien contre les pygmées. Je veux dire, ils ont qu'à sortir nos films dans de bonnes conditions. Et après, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment genre, attendez, on va pas prendre des films en français avec des acteurs français qu'on connaît pas. Donnez-nous votre belle écriture et puis on en fera quelque chose. Alors,
les meilleures conditions quand un film français sort aux États-Unis, c'est combien de salles? Allez. Ça va au maximum.
Il y a une salle à New York, le Paris.
Une salle à New York qui s'appelle le Paris.
Il y a je pense qu'il y a des exceptions comme le film de Jeunet. Il y a quelques voilà, La Môme, tout ça a dû bénéficier d'une sortie plus beaucoup plus importante. Mais en général, oui, il y a une salle à Paris, à New York, ils appellent le Paris, et puis voilà, quelques salles. C'est marrant parce qu'ils ont réussi à reconstruire une sorte de totalitarisme culturel, mais avec une soi-disant liberté, parce que les Américains ne peuvent voir des films étrangers que dans des festivals, que dans des... Et un peu maintenant sur Sundance voilà.
Oui.
Heureusement,
Robert
ça change.
Robert Redford a quand même bien œuvré.
Il œuvre, c'est
voilà.
Vrai.
Bon, alors, le cinéma, c'est à la fois de l'art, de l'industrie, du business, des réseaux. Et les décideurs aujourd'hui, paraît-il, sont les chaînes de télé qui produisent. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez, est-il vrai que pour accepter de financer un film, aujourd'hui, les chaînes de télé regardent absolument pas les entrées dans les salles de cinéma, mais les audiences du réalisateur quand elles diffusent leur film? C'est comme ça que ça marche à présent?
Oui, ça fait un moment que ça marche comme ça. Et ça
mais
fait
c'est
un
terrifiant.
Moment, c'est les chaînes de télé qui décident.
Oui, mais en fonction des audiences
ben oui.
À l'antenne et pas du nombre d'entrées dans les salles.
Oui, c'est exact.
Mais c'est-à-dire que là, la télé avale le cinéma.
Oui, la télé avale le cinéma et la télé a toujours financé le cinéma. Et puis en plus, aujourd'hui, avec l'émergence des séries, avec le. Enfin voilà, il faut. De toute façon, le cinéma, en plus, d'auteur, a toujours été quelque chose à protéger, quelque chose à chérir, quelque chose à... voilà, parce que c'est forcément, souvent, enfin voilà, des films moins rentables au départ. Parce qu'après, ça devient des classiques, après, ça devient des... Enfin, pas tous, évidemment, mais enfin... Mais voilà, ça a toujours été compliqué et ça l'est... Et à chaque fois, il y a eu des donnes nouvelles, parce qu'il y a eu toute une période d'or avec Canal+, et son obligation de verser 10% de ses recettes, etc., dans la création du cinéma français. Ça a changé, les choses changent, il y a tout... Mais bon, ça n'a jamais été très facile pour notre cinéma. On est
ça
beaucoup
encore
plus privilégié que dans tous les autres pays d'Europe où le cinéma est mort, tout simplement, ou moribond. mais voilà,
on
ça l'est encore moins en ce moment.
Mais derrière Almodovar, le cinéma espagnol, il se porte pas très bien.
Le cinéma italien
est moribond.
Ah bah là, il est carrément mort, pareil, à part Moretti ou deux cinéastes qui arrivent à s'en sortir. Mais c'est incomparable. Et or, le cinéma, il apporte aussi le tourisme, il apporte aussi beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que Roosevelt, est notamment, a investi autant dans le cinéma américain à l'époque, dans une industrie. Mais...
Alors, juste avant de faire une pause, Agnès Jaoui, cette question, parce que ça m'intrigue. Il paraît que Jean-Pierre Bacri et vous, 16 ans après le fameux Astérix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, vous avez écrit un scénario pour Astérix à la demande de Jamel Debbouze qui voulait le réaliser.
Oui.
Et pourquoi le projet a avorté ?
Pour des histoires de droit. Qui n'ont finalement pas été données aux producteurs de l'époque.
Au bout du scénario.
Non, on a été au bout du séquencier.
Oui.
Et je pense que ça aurait été, ou ce serait, parce qu'on ne sait jamais, un film très bien.
Très bien. Voilà.
Ouais.
Donc,
vraiment, c'est un
le
regret.
Le prochain
parce que...
Astérix signé Bacri et Jaoui et réalisé par Jamel Debbouze, ce serait top. Il est prêt, il est au chaud, dans un tiroir.
Exactement.
On se retrouve tout de suite.
Europe 1. 15h45, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite, c'est à l'occasion de sa première mise en scène d'opéra Tosca de Puccini qu'Agnès Jaoui a poussé les portes d'Europe 1. Elle est l'invitée d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h.
Agnès Jaoui, depuis plus de 25 ans, lorsqu'en hiver vous n'êtes pas à Paris et que vous ne travaillez pas, eh bien on peut vous apercevoir à Cuba, où vous avez vos habitudes et des amis fidèles. Alors, je sais que les rythmes cubains vous rappellent les airs arabo-andalous de votre enfance, mais au-delà de ça, comment s'est tissée votre relation avec Cuba, avec la Havane, et puis avec sa population qui vit toujours sous la domination communiste, même si les choses s'allègent, on va dire. D'ailleurs, s'allègent-elles ?
Pas vraiment, un peu, mais pas vraiment. Et puis avec l'arrivée de Trump au pouvoir...
L'embargo se resserre.
Voilà, exactement. Et ça, c'est assez tragique. C'est un peuple extrêmement, attachant, fascinant. Je pense que une des réussites du communisme, parce qu'il y en a eu, c'est l'accès à la culture. Donc, quand je suis allée là-bas, j'ai été très touchée par. La pauvreté des gens est d'autant plus touchée que parfois, dans un pays pauvre, vous pouvez vous protéger en disant « Bon, de toute façon, ils vivent différemment. » Mais là, quand ils vous citent Shakespeare, Bourdieu, quand on sent leur avidité culturelle, parce qu'il y a un vrai goût pour ça, ça m'a d'autant plus touchée, bouleversée. Et puis, voilà, j'ai rencontré des gens... qui m'ont accueilli. Il y a quelque chose de très particulier dans ce pays. Et puis, il vit au rythme des années 50. Donc les gens sont dans les rues, il y a des chevaux.
Un peu dans une parenthèse temporelle, c'est ça ?
Oui, c'est très étonnant. Je pense que très inconsciemment, j'ai retrouvé la Tunisie de mes parents. Il y a un rapport au corps, aux gens, qui est différent.
Vous-même, vous devenez quelqu'un d'autre lorsque vous êtes à Cuba ?
Sûrement. En tout cas, je m'habille différemment, le regard n'est pas le même. Le rythme n'est pas le même parce que c'est impossible. Il faut apprendre la patience à Cuba.
Il faut apprendre la patience.
Ah oui, faut vous attendez beaucoup pour beaucoup de choses. Et puis, le rapport avec les gens me touche particulièrement.
Alors, si on veut découvrir cette île si singulière des Caraïbes et vraiment sortir de la carte postale, il faut procéder comment ? Est-ce que les touristes sont assez libres aujourd'hui d'aller où ils le veulent ?
Les touristes sont libres, ont toujours été libres. C'est les gens qui ne sont pas libres. D'ailleurs, pendant longtemps, alors c'est en train vraiment de changer, mais il y avait des plages qui étaient réservées aux touristes et pas aux Cubains. Il y avait des endroits les plus beaux de l'île qui étaient réservés aux touristes et pas aux Cubains. Donc ça, c'était particulièrement insupportable, comme vous pouvez imaginer. Sans parler des hôtels, évidemment. Donc le touriste, il est libre et très protégé parce que... de toute façon, c'est une île où il y a peu de violence. En plus, quand on compare avec l'Amérique latine en général, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais enfin, il y a peu d'agressions. Et moi, enfin, une femme peut se promener à 2-3 heures du matin en mini-jupe. Il passera, vous vous ferez draguer tous les 2 mètres, ça oui. Mais pas du
on
tout agressivement. Ah non, pas du tout. Donc, alors après, il y a pas de panneau et pas de GPS. Donc, et à peu près personne sur l'autoroute, puisqu'il y a très peu de voitures.
Mais comme vous y allez depuis plus de 25 ans, vous ne vous perdez plus.
Et puis j'y vais avec des Cubains. Mais donc voilà, il faut prendre éventuellement un Cubain ou un chauffeur cubain. Mais bon, tout ça est très faisable et c'est un pays merveilleux.
Alors Agnès, j'avoue, vos enfants sont aujourd'hui de grands ados, n'est-ce pas ? Eux, ils sont nés au Brésil, vous les avez adoptés en 2008. Vous voyagez beaucoup ensemble ?
Oui, beaucoup.
Ils aiment Cuba ?
Alors, Cuba, je ne les emmène pas, ce n'est pas vrai. Je les ai emmenés une fois, quand ils étaient petits, oui, mais maintenant, c'est pas un pays pour... Enfin, c'est pas un pays pour... bref, ils ont besoin de Wi-Fi, mes ados, vous savez ?
Donc, d'accord.
Le plus bel endroit du monde sans Wi-Fi,
ça marche pas.
N'est pas beau.
Bah.
N'est pas intéressant.
Vous êtes retourné au Brésil avec eux ?
Oui.
Parce que comme ils avaient 5 et 7 ans, je crois, lorsque vous les avez adoptés, ils parlent donc parfaitement le portugais. En fait, à la maison, vous parlez combien de langues ensemble ?
Non. On parle français comme la plupart des enfants adoptés dès qu'ils sont arrivés en France.
Parce que vous parlez portugais.
Oui, mais dès qu'ils sont arrivés en France, ils ont enlever leur langue, même entre eux, ils parlaient français et ils n'ont absolument pas voulu continuer à apprendre cette langue. Ça reviendra, ça revient.
Ouais.
Mais non, ils voulaient être français.
C'est magnifique la langue portugaise.
Mais oui.
Alors c'est un acte très puissant d'adopter des enfants de 5 et 7 ans. Comment à cet âge-là leur fait-on comprendre la réalité du lien maternel ? Car soudain, ils ont une maman.
C'est une aventure très étonnante, très bouleversante, très passionnante. C'est très bizarre le lien, de toute façon. C'est très bizarre le lien en tout et pour tout. Pourquoi vous restez amis avec quelqu'un ? Comment vous nourrissez le lien, l'amour pour quelqu'un ? Comment l'autre le nourrit ? Parce que ça se fait à deux, forcément. Comment vous soutenez quelque chose ? La chose étrange, c'est que moi je les ai rencontrés le premier jour je me suis dit mais ils sont trop beaux, le deuxième je me suis dit mais c'est les plus beaux du Brésil, et le troisième je me suis dit c'est les plus beaux du monde, et voilà, c'était mes enfants les plus beaux, et eux je pense que c'était plus complexe, il faudra leur poser la question un jour à eux, mais justement, il continue à s'affirmer, à se réaffirmer. Et puis, là, il est très questionné au moment de l'adolescence. L'adolescence est un moment très compliqué en général.
Oui.
Mais pour les enfants adoptés, vous imaginez bien, c'est encore plus compliqué.
Complexe.
Voilà. Et justement, là aussi, il se réaffirme. Et en même temps, comme tout adolescent, vous avez besoin de le casser, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous séparer. Puis en même temps, justement, d'être sûr que ce lien est fort. Donc. C'est un chemin hallucinant. Il faudrait 2 heures d'émission pour en parler.
À la prochaine fois, alors. On retrouve tout de suite Agnès Jaoui.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin sur Europe 1. Isabelle Morizet reçoit l'actrice, scénariste, réalisatrice et passionnée de musique, Agnès Jaoui.
Agnès Jaoui. Les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre, dans le cadre du Festival Opéra en plein air, on va pouvoir applaudir dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, à Paris bien sûr, votre mise en scène de l'œuvre magistrale de Puccini, Tosca, avec une distribution vraiment de haut vol, 2 sopranos en alternance pour interpréter Tosca, donc Karine Babajanian et Eva Vézine, un chef d'orchestre mondialement connu, Yanis Pouspourikas, Anne Gravoin au violon, et puis le meilleur pour les Lumières, Jacques Auverolis. Mais ce n'est pas tout, il y a une proposition de Tosca, et ça c'est très judicieux, qui a été pensée l'après-midi, donc à toutes ces dates, exprès pour le jeune public. Vous êtes intervenu ou pas du tout ?
Non, pas du tout, mais je trouve que c'est une idée formidable, effectivement. La petite Tosca. Et c'est un comédien qui donc raconte pour le jeune public ce qu'est Tosca, qui l'initie à l'opéra. Je trouve ça formidable.
Alors,
Et le 8,
justement.
Oui.
Attention, il faut en parler, parce que là, c'est une soirée un petit peu particulière, le 8 septembre.
Oui,
c'est caritatif.
Exactement. Elle est 15% de la recette sera reversée à une association qui s'appelle Vaincre le cancer. Et donc, voilà. Je voulais le signaler.
Mais c'est très bien. On a dit tout à l'heure que vous étiez en ce moment sur l'écriture d'un nouveau film avec Jean-Pierre Bacri. Vous repartez en concert avec El Trio de Mis Amores.
Oui, absolument. Oui. Fernando Fisbane et Roberto González Hurtado. On repart. Oui, on a fait une première date au Lieu Mouvant en Centre-Bretagne, dans un festival donc, qui s'appelle Lieu Mouvant, qui était formidable. Et puis, on repart sur les routes à partir d'octobre. Et puis, on a des dates en décembre à la Scala à Paris.
Oui.
Et puis, le reste, c'est sur les routes.
Mais toutes les vies parallèles, Daniel Jaoui, c'est assez bluffant quand même. Mais au fil du temps, finalement, la musique serait-elle en train de prendre quand même le pas sur la comédie ?
Non.
Non.
Ça a toujours été mêlé. Je vous dis, même quand ça n'était pas public, ni médiatisé, ça existait quand même. Et je faisais des concerts. Peut-être un petit peu moins fréquemment que maintenant, mais je faisais aussi de la musique et des concerts. Et c'est mêlé. Pour moi, je vous dis, c'est du rythme, c'est raconter des histoires. Et encore une fois, ce rythme est au centre de tous ces arts. Et pour moi, tout ça est très, très, très imbriqué. L'un ne va pas sans l'autre.
Le premier geste, le matin, chez vous, c'est peut-être de mettre de la musique, choisir un morceau.
Il y a toujours de la musique à la maison.
Toujours, à toutes les heures.
Oui, France Musique est allumée en permanence dans ma cuisine. Voilà, c'est dit.
Bon, alors notre balade, hélas, touche à sa fin. Mais je ne vous laisserai pas partir, Daniel Jaoui, sans vous poser cette question. Quelles sont les idées que vous aimeriez souffler au ministère de la Culture ?
Oh, alors voilà une question
inspirante,
très inspirante, de continuer à protéger notre patrimoine culturel, de le faire au point de vue européen. Je trouve que le fait qu'on ignore tant nos cultures mutuelles réciproques, c'est tragique. Enfin,
C'est ignorer l'âme de l'autre.
Mais c'est-à-dire que
fait.
Je trouve que, à part l'Eurovision et le football, on sait très peu, alors qu'avant c'était moins le cas, et que par exemple s'il y avait une chaîne de télé qui existait où chaque cinéaste parlerait de je sais pas, Nanni Moretti, conseillerait des films italiens, voilà, où on saurait une sorte de Sundance ou de je sais pas quoi, où Arte, mais c'est juste l'Allemagne et la France,
c'est
là,
ça.
Il y aurait toutes les cultures européennes et on pourrait choisir un jour un film hongrois, un jour, voilà, avec une espèce de cahier des charges. Ça me paraît pas hyper compliqué à mettre en place et c'est pas mis en place. Et ce qui fait qu'en plus que l'Europe, pour beaucoup de gens, ne veut pas grand-chose. Non seulement c'est abstrait, mais voir, ça devient le responsable de tous nos malheurs. Et il y a donc ces replis nationalistes aussi, parce que, justement, et l'Europe sociale et l'Europe culturelle étaient complètement oubliées.
Ouais,
moi, je dirais
connu.
Aussi, il faudrait qu'il y ait une fête européenne. Telle date, on décide que c'est la fête et que il y a beaucoup de choses à faire, qu'on n'ait pas juste la perception que c'est un libre marché qui va tuer toutes les petites professions et tous les petits gens. Enfin, c'est vraiment malheureux. Et qu'encore une fois, ce ne soit pas pris en compte véritablement. Enfin, et moi, j'y suis souvent allée au Parlement européen, essayer de... Mais vous êtes...
C'est formidable parce que vous dites, vous êtes souvent allée au Parlement européen, vous
oui.
avez pris la parole.
J'ai pris la parole,
sur quel type de sujet, justement
exactement ce qu'on évoque, mais j'ai été peu entendue, comme vous pouvez le remarquer. Mais, et puis j'ai parlé à d'autres cinéastes, enfin, il y a beaucoup à faire. Il y a l'EFA aussi qui existe, qui sont les Césars ou les Oscars européens.
Oui.
Les médias français ne s'en foutent éperdument. Mais il y a un mépris fou. Or, l'absurdité totale de cette chose, c'est que je peux vous dire que justement, on y retrouve Almodovar, Ken Loach. Enfin, vous vous rendez compte que les plus grands artistes, si on prend l'Europe, il y a beaucoup plus de grands films qu'aux États-Unis. Là, on peut pas. Enfin,
où il y a des blockbusters, on va dire.
Il y a des blockbusters, il y a aussi des bons films. Enfin, je veux dire, là, il y a une qualité folle et on. Je vous dis, c'est une question de mode, c'est une question de hier. On revient à ce dont on parlait au tout début de la conversation, c'est-à-dire à quel point des fois il y a des choses qui existent et on ne le sait même pas. Il y a des possibilités, ça me rend folle parce que ça n'est pas considéré et je pense que c'est très très dommageable.
Bon, faut retourner au Parlement européen.
J'y retournerai.
Prendre la parole,
oui.
Alia Janui, vous nous le promettez.
Je
rappelle les dates dans la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides à Paris, 4, 5, 6, 7 et 8 septembre, qui sera une soirée caritative au profit de la recherche contre le cancer. Merci infiniment
de
nous avoir accompagnés pendant une heure. C'était épatant.
C'est toujours un plaisir.
À bientôt.
Merci beaucoup.